Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode numéro 386. Nous sommes en janvier 2021. Encore une fois, bonne année si c'est le premier épisode de l'année que vous écoutez. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler du Samsung Galaxy S21 avec qui va nous donner le titre de l'épisode que vous avez déjà vu et pour lequel je m'excuse. J'ai un petit peu honte, mais on va en reparler dans une seconde. On va aussi parler de tout ce qui s'est passé au CES. C'était un CES un petit peu rachitique, mais quand même intéressant par certains points. On aura aussi des sujets divers et intéressants comme une intelligence artificielle qui dessine par rapport à ce que vous dites. On va parler de QR code pour tous anti-Covid. Est-ce qu'il faut en avoir peur déjà? On va aussi parler de vrais écouteurs sans fil et de leur importance. Et on va faire aussi un point sur la déplateformisation en toute fin d'émission. On ne va pas y passer deux heures parce qu'on a déjà fait une heure la semaine dernière sur le sujet. Mais il y a quand même des choses qui se sont passées. Donc, on en parlera aussi. Pour m'aider à décortiquer tout ça, j'ai d'une part Marion qui est... Bah, c'est la première fois que tu fais l'émission en live sur Twitch, du coup.
Tout à fait, c'est mon baptême de live Twitch.
Pour le rendez-vous tech. Parce que sinon, t'as l'habitude quand même avec le...
Je ne peux pas dire encore que j'ai l'habitude du live Twitch. Hein, mais au fur et à mesure, je suis de plus en plus à l'aise.
Très bien, très bien. Écoute, c'est presque comme le live YouTube, mais avec des gens plus sympas. Je ne sais pas du tout.
Bon. Tu veux liguer une partie de tes fans contre toi ou...
Non, je voulais dire des gens plus sympas, c'est-à-dire avec moi et Jérôme Marin, qui est avec nous aussi, contrairement au live que tu fais généralement toute seule. Tu vois, c'est ça que c'est pour... Bon, Jérôme Marin, justement, comment ça va Jérôme? T'es en forme?
Très très bien, merci.
Je suis content que tu te joignes à nous cette fois-ci aussi. Alors toi, tu étais aux États-Unis pendant longtemps. Tu faisais des CES quand tu y étais?
Non, j'avais la chance de ne pas aller au CES.
De ne pas y aller, oui, je comprends.
Ouais, bien, oui. Mais j'étais à San Francisco, effectivement, je voyais tous les autres journalistes partir et ne pas vouloir y aller, en fait.
Ouais. Voilà. Partir et revenir avec la crève, c'est généralement ce qui se passe. Bah, écoutez, on va parler justement du CES et de ce qui s'est passé en marge, mais avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, comme toujours, à savoir Julien Réveillon, Imson Reimb, Tim, Thomas Jensen, Martif, Marc Bertel, Manuel, Léo Seven, Remo 75, Jérémy Sandrin, et bien sûr, le producteur de cet épisode, Rémi X, qui, j'imagine, après Rémi X, viendra Rémi 11, puis Rémi 12 Pro. C'est comme les iPhones, en fait, vous voyez, je veux dire, Rémi 10, j'aurais pu dire. Rémi, dis-moi si tu veux que je dise ton nom Rémi X ou Rémi 10, parce qu'on ne sait plus de nos jours, c'est tellement confusing. Merci en tout cas à vous tous de soutenir l'émission, c'est grâce à vous qu'elle existe, et en particulier aux producteurs dont Rémi X fait partie. Si vous souhaitez soutenir également, c'est sur patreon.com/rdvtech et on donnera votre nom en remerciement en début d'émission, évidemment. Alors, le CES, justement, bon, l'annonce du Galaxy S21 se fait en marge au Samsung Unpacked, je crois, comme c'est le cas à chaque fois, en marge du CES. Mais peut-être avant de se lancer dans les annonces, le CES, cette fois-ci, il était particulièrement réduit, beaucoup en ligne. J'ai l'impression que, contrairement à ce qu'on a pensé pendant des années, ce que tu disais, Jérôme, juste maintenant, les journalistes et les privilégiés qui font le déplacement avaient tendance à dire « oui, bon, c'est marrant, mais c'est quand même beaucoup de boulot, c'est fatigant, c'est épuisant, on revient avec la crève, etc. » Et les sociétés à qui ça coûte très très cher de faire ces événements et d'acheter les emplacements et tout ça, on avait tendance à se dire bah, peut-être qu'à l'avenir, tout se fera en ligne. Et j'ai l'impression qu'entre l'E3 de l'année dernière qui n'a pas eu lieu et du coup pour lequel tout s'est fait en ligne dans le domaine du jeu vidéo et le CES notamment, mais aussi avec d'autres salons, j'ai l'impression que les gens se rendent compte de ce qu'ils perdent, à la fois du côté des exposants qui ont du coup moins de buzz et moins de gens à qui ils peuvent montrer tout ça, et du côté des journalistes, c'est peut-être ça qui est peut-être le un petit peu moins attendu, un petit peu moins, comment dire, un petit peu plus surprenant. Les gens se disent, ah bah finalement, c'était peut-être pas si mal d'avoir un lieu physique, donc je me demande si on n'est pas en train de faire marche arrière sur cette idée que l'évolution des présentations tech se fera dans un sens de tout numérique, quoi. Moi, je pense que le physique est en train de reprendre un petit peu sa place dans le cœur des gens. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que le CES encore plus que l'E3, parce que l'E3, finalement, souvent, les jeux, il n'y a plus de jeux jouables dorénavant. Donc, il n'y a pas trop l'intérêt d'être sur place, il est peut-être un peu moins. Mais au CES, si on veut montrer une qualité d'image, une nouvelle télé, si on ne veut pas la voir, si on la voit sur un stream d'une qualité assez médiocre, on ne va pas voir. Il y a pas mal d'innovations où la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ce genre de choses, on ne peut pas les expérimenter si on n'est pas sur place. Donc,
pour le CES, et même pour les. Pour les jeux, à la limite, on peut donner accès aux jeux à un journaliste qui aura la même expérience qu'en étant sur le booth, peut-être même plus tranquille. Alors que oui, pour une télé, si tu la vois en photo, c'est pas tout à fait la même chose, c'est vrai. On me signale dans la chatroom que le Unpacked, c'est généralement à Barcelone, effectivement, au Mobile World Congress. Merci de la correction.
C'est généralement un mois plus tard, donc.
C'est ça. Exactement. Mm-hmm. Bon alors, ce Samsung Galaxy S21, de quoi en retourne-t-il ? D'une manière générale, j'ai l'impression que... Ah tiens, pardon, pour le titre, il y a un S21, un S21 Plus et un S21 Ultra. C'était déjà le cas pour les S20, je crois, l'année dernière. Mais du coup, le titre, le NEC Plus Ultra du téléphone. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé de ce titre. Je tiens à m'excuser auprès de tous les auditeurs.
C'est un peu facile.
C'est un peu facile, c'est pas de très grande qualité, mais bon, écoutez, j'ai pas de meilleure idée, donc voilà. Peut-être qu'on aura une idée géniale pendant l'enregistrement. Mais donc, c'est quoi ces S21, S21 Plus et S21 Ultra ? Je dirais que par rapport à l'année dernière, c'est un petit peu la rengaine qu'on nous sert à chaque fois qu'on a une update de téléphone ces dernières années. C'est très incrémental, peut-être même un petit peu plus que les années précédentes. On a un appareil qui a un design différent et un meilleur appareil photo, ou deux meilleurs appareils photo au pluriel, puisqu'il y en a cinq sur la version Ultra, avec... un zoom 3x3 et x10. On a aussi une caméra selfie de 40 mégapixels sur la version très chère Ultra. Et un écran en QHD, donc 1440p, une haute résolution en fréquence adaptative qui monte jusqu'à 120 Hz. La différence avec l'année précédente, c'est qu'on n'a pas de carte SD disponible, ce qui est un petit peu frustrant pour les gens qui aiment avoir un petit peu plus de stockage, même si sur Android, ça commence à devenir la norme de plus avoir de carte SD, ou en tout cas de plus en plus de constructeurs le font. Et pas non plus d'adaptateur secteur ni d'écouteur. Bon, ça sera peut-être pas exactement la même chose en France en raison des contraintes de la loi, mais c'est marrant de voir qu'effectivement Samsung et comme Xiaomi suivent la tendance instaurée par Apple cette année ou l'année dernière plutôt. Et puis sur le Ultra, une version du S Pen, donc du stylet, qui peut être utilisée mais qui est passif, contrairement au S Pen du Galaxy Note, et il n'y a pas de rangement dans le téléphone pour le stylet, donc c'est un petit peu plus en option, on va dire. Donc ça, c'est le modèle très très cher, à 1 259 € au prix de départ. Pour les modèles un peu moins chers, le S21 et le S21 Plus, on est dans une gamme de prix qui est de 859 € pour le normal, 1059 pour le Plus. Une coque en plastique contre une coque en verre. Pour les deux, un écran 1080p en 120 Hz adaptatif. Trois objectifs, 12 mégapixels, 12 mégapixels en wide et 64 mégapixels en ultra-wide, qui fait un zoom x3 et jusqu'à x30 en numérique. Et là encore, comme le Ultra, pas de stockage extensible en carte SD et pas d'adaptateur secteur ni d'appareils, d'écouteurs dans la boîte. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment... Alors, il est moins cher, en tout cas en dollars, que l'année dernière, surtout pour les téléphones, j'allais dire, d'entrée de gamme. Je devrais faire attention à ce que je dis. 859 €, pour le moins cher, on va dire. Il est moins cher que l'année dernière, en dollars, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez de ces Samsung Galaxy S21 Marion, est-ce qu'ils te plaisent? Ils sont dans ta liste d'achat pour, j'allais dire, Noël 2021, mais ça fait un peu loin.
Non, bah en plus surtout qu'il se trouve que pour des raisons professionnelles pour Naotech, on m'a prêté un iPhone 12 mini, donc j'ai pas vraiment de raison d'en changer. Mais écoute, je suis pas très très Samsung pour être honnête, j'ai pas vraiment de raison spécifique. Je pense que je préfère le Google d'origine en termes d'OS. C'est pour ça, mais là je trouve qu'ils sont assez. Je trouve ça intéressant qu'ils aient pris un parti pris déjà de form factor différent, avec voilà un nouveau modèle, un nouveau look où ils assument complètement, tu vois, le positionnement des objectifs au dos. Après, je trouve que ça commence à faire beaucoup d'objectifs sur le ultra. C'est un peu ridicule quand même, hein, faut le dire. Mais je trouve que c'est bien intégré, tu vois, avec ce coin vraiment découpé dans la coque arrière. Je trouve que ça fonctionne bien. Après, voilà, le rendu, tu vois, c'est un rendu un peu mat du vert, ça rend bien. Jérôme, de Naotech, qui a pu les voir en vrai, m'a dit que la différence entre le plastique et le vert, ça se voyait pas trop pour le premier, enfin, j'allais dire le premier prix, mais comme tu l'as dit, pour le moins cher, on va dire.
Pour le S21 et le S21 Plus.
Exactement.
Ouais.
Voilà, le plastique est de bonne qualité. Donc, a priori, voilà, c'est des bons flagships. Après, la bonne nouvelle aussi, c'est que je crois qu'ils sont garantis 3 ans. Donc, ils sont quand même faits pour durer, ce qui est rassurant à ce prix-là aussi. Parce qu'à n'importe quoi, voilà, à partir de 800 €, quand même, tu as envie que ton smartphone dure un minimum de temps. La question que je me pose toujours avec Samsung, c'est dans combien de temps ils vont casser les prix ? Dans combien de temps mon smartphone va perdre de la valeur. Voilà, donc est-ce qu'on en aura encore pour son prix dans 6 mois? Voilà, généralement ils sont assez habitués des prix cassés très très rapides, voilà, qui dévaluent un peu le smartphone qu'on a. Mais voilà, a priori aussi la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont amélioré la qualité des performances vidéo qui laissaient à désirer quand même sur le S20. Qu'on avait testé l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'était là où Samsung était un peu à la traîne par rapport à Apple. Je peux pas m'empêcher de comparer à Apple, mais
bah évidemment.
Mais voilà.
On est vraiment dans Samsung a réussi en fait à capturer le marché haut de gamme Android complètement, en plus du fait qu'ils fassent des téléphones pour toutes les gammes. Mais je pense que quand on pense haut de gamme sur Android aujourd'hui, on pense évidemment à Samsung et au Galaxy S. Habituellement, donc la comparaison se fait forcément. Ouais.
Ouais. Donc plutôt un bon flagship, quoi.
Jérôme, une appréciation
Ouais. Ce que je trouve intéressant, et j'ai l'impression qu'ils sont en train d'élargir la gamme, ce que tu disais tout à l'heure, on essaie d'avoir des smartphones moins chers, donc à 800 $, c'est 860 €, je crois, en France, qui sont donc moins chers que les précédents, qui sont 5G, il faut le préciser. Les nouveaux S21 sont tous 5G, alors que les S20 étaient 4G aussi. Et donc, on essaye, en différenciant, donc on met du plastique, par exemple, on ne met pas de carte SD, on ne met pas de chargeur, pour baisser le prix, pour déjà s'aligner sur le prix de l'iPhone, et surtout pour concurrencer Xiaomi, Huawei. Bon, Huawei, peut-être c'est un peu à part, ouais. Mais les smartphones, parce que, certes, tu disais Samsung sur le haut de gamme Android, c'est vrai qu'aujourd'hui, à part Samsung, c'est Samsung un peu la référence, mais quel est le marché du très haut de gamme Android? Un téléphone à 1300 €, un Android à 1300 €, le marché, il est quand même assez faible.
Ouais, c'est
donc
sûr.
Ils essaient d'ouvrir le marché en baissant les prix, en se disant aujourd'hui, la concurrence, c'est pas sur les smartphones à 1000 € qu'on va, ou à 1300 € qu'on va gagner des parts de marché, c'est sur les smartphones à 800 € et moins. Et donc, 800 €, on baisse le prix, on essaye de mieux concurrencer Xiaomi ou Google, enfin tous les autres constructeurs, même Oppo ou Vivo qui se lancent en Europe aussi. Donc ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir baissé les prix. Donc 200 $ aux États-Unis, en France, on est à entre 50 et 150 € de moins par rapport au S20. Donc, c'est quand même un effort assez important. Alors qu'ils avaient quand même résisté longtemps à baisser les prix parce que voilà, ils avaient leur image de marque, ils avaient leur marketing. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça suffit plus forcément pour garder les mêmes parts de marché.
Ils ont aussi fait, je suis en train de montrer sur la vidéo, toute la partie sur le noir de la version noire du téléphone qu'ils ont étudié pendant des mois, et ils nous montrent tous les différents noirs, plus noirs que noirs qu'ils ont. Enfin, quand on réussit à faire 5 minutes dans la vidéo de présentation sur la couleur, je suis sûr qu'il est très noir, leur noir. Mais quand c'est sur ça qu'on insiste à ce point dans la vidéo de présentation de l'appareil, j'imagine que là je la regarde sans l'audio, c'est comique. Il y a des gens qui regardent différentes plaquettes de noir et ils les observent avec, enfin on dirait une parodie, quoi. Ils les observent avec attention et il y en a une qui est noire et l'autre qui est noire, quoi. C'est vraiment.
Mais ça montre qu'en fait, l'innovation sur les smartphones, elle est de plus en plus faible, en fait.
C'est ça.
D'une génération à l'autre. Et donc, voilà, si on insiste sur la couleur, c'est que vraiment, on n'a rien d'autre à montrer.
Voilà. C'est ça, oui.
Oh là là, je trouve... En tant que designer, je vous trouve assez médisant, là.
Justement, c'est intéressant d'avoir ton avis sur la chose, Marion, mais il faut avouer que c'est même pas... Enfin, le seul élément de design dont ils parlent, c'est le noir. C'est-à-dire qu'ils ont qui est vraiment très noir. Ok, je veux bien.
Il nous faut une Jenny Hive, quoi. En gros, ils passent 10 minutes sur mettre en valeur le... Bon, je t'avoue que la vidéo, je suis en train de la regarder là. C'est vrai que voilà. Bon, oui, c'est des belles images, mais ça n'a pas trop d'intérêt.
Si tu veux, je comprends l'idée de faire une vidéo sur le design avec les matières que tu as utilisées ou la forme du truc. Mais vraiment, juste qu'on parle de la couleur, je veux bien. Mais 5 minutes sur le... Bon, bref, enfin, peu importe.
Ouais, D'accord. D'ailleurs, c'est étrange qu'ils n'aient pas insisté plus sur... après, je n'ai pas vu la conférence, donc peut-être que tu vas me dire, mais sur le form factor, justement, le parti pris du matériau, du positionnement,
ils en ont parlé,
des objectifs,
oui.
etc.
Ont parlé, bien sûr. C'est juste que les 5 minutes sur le noir étaient un petit peu cocasses. Mais bon, c'était qu'une partie de la conférence. Ils ont d'ailleurs, en parlant d'autres parties de la conférence, annoncé d'autres appareils, et notamment les Galaxy Buds Pro, qui ont un nouveau design, qui sont donc les écouteurs méga sans fil qui vont dans le sillage des AirPods, et le Galaxy Smart Tag, qui coûte une trentaine de dollars, donc une quarantaine, 35 euros, j'imagine, en France, qui prend un petit peu de vitesse Apple avec leur capteur à mettre sur quelque chose et qui va utiliser le réseau Ultra Wideband et les réseaux d'appareils Samsung pour détecter l'emplacement de la chose. Donc, vous le mettez sur vos clés, sur votre sac, ce genre de choses. Et là encore, c'est quelque chose que Apple devrait annoncer également bientôt. Il y a déjà des appareils third party qui existent, comme Tile notamment, qui font un petit peu ça. Avec le réseau Ultra Wideband, ça sera un petit peu plus facile à repérer, parce que le réseau porte plus loin et il crée un réseau maillé, un réseau mesh entre les différents appareils. Et donc, même si votre appareil n'est pas à côté, ça peut utiliser de manière sécurisée, évidemment, l'appareil de quelqu'un d'autre pour vous relayer l'information à vous.
Tu trouves pas ça étrange qu'ils aient limité justement le réseau maillé aux appareils Samsung ?
Alors, c'est sur certaines fonctionnalités de l'appareil qui est limité au Samsung, mais c'est sûr que, d'une manière générale, il faut qu'il y ait des appareils qui soient plus... plus il y en a, plus le réseau est élargi. Et dans le cas des appareils Apple, j'imagine que ça marchera un petit peu mieux parce que y a beaucoup d'appareils Apple dans le monde, plus que d'appareils Samsung qui sont équipés de l'Ultra Wideband. Mais
Parce que Tile, par exemple, Tile fonctionne avec Android et... Enfin, dis-moi si c'est une bêtise, mais Tile fonctionne avec iOS et Android.
Je ne crois pas, et peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas que Tile puisse utiliser les téléphones des autres utilisateurs, ou peut-être que c'est le cas, mais dans tous les cas, l'Ultra Wideband commence à peine à arriver. C'est vraiment, je crois, sur les téléphones de l'année dernière et de cette année que ça commence vraiment à arriver. Donc, ça, jusqu'à maintenant, ça se servait du Bluetooth. Et on le sait, le Bluetooth consomme beaucoup plus d'énergie, a beaucoup moins de portée, donc c'était quand même beaucoup moins efficace que ça ne le sera avec l'Ultra Wideband.
D'accord.
Et puis sinon, il y a donc les Galaxy Buds Pro qui sont des versions, comment dire, des versions plus professionnelles, pas forcément professionnelles, mais qui sont plus performantes des écouteurs sans fil de Samsung, ce qui est toujours bon à prendre, on va dire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire sur les Galaxy Buds Pro, mais si vous voulez en parler
plus... Moi, je ne sais pas, ils n'en parlent pas. C'est vrai que j'ai du mal à chiffrer le marché. Enfin, on voit, Apple, on le sait, que ça marche beaucoup pour Apple, mais souvent, là, les projets un peu périphériques de Samsung, comme ça, j'ai du mal à chiffrer, à voir si ça marche ou pas, en fait.
Bah écoute, on a justement des chiffres, peut-être qu'on peut en parler maintenant, mais on a des chiffres sur le marché des appareils True Wireless, c'est comme ça qu'ils les appellent. Il s'est vendu en 2020 238 millions d'unités de ces appareils vraiment wireless, avec une part de marché de 29% pour Apple, Xiaomi à 13% et Samsung 5% seulement. C'est tout de même une augmentation de 83% sur le marché de l'année dernière, ce qui est impressionnant. Mais oui, ça représente beaucoup de brousouf, on va dire. beaucoup de brousouf. Et d'ailleurs, quand il parle de ça, c'est pas que les écouteurs, c'est aussi les montres. Mais bon, les écouteurs, c'est 50% du marché, donc c'est quand même beaucoup. Donc c'est pas évidemment pas aussi gros que les téléphones, mais ça représente quand même une certaine quantité d'argent, on va dire. Pour le reste du CES, il y avait beaucoup d'ordinateurs portables avec des cartes graphiques de nouvelle génération portables, donc qui consomment moins. Je ne sais pas s'il y a énormément de choses à dire à ce niveau-là, mais en gros, on a les cartes RTX de Nvidia, les processeurs Ryzen de AMD, ce genre de choses qui sont arrivées en mode portable. Donc, ça va faire augmenter les performances des portables pour ceux qui, surtout, veulent en tirer de grosses performances, les joueurs et les créateurs de contenu. Et à côté de ça, il y avait quelques curiosités que j'ai notées. C'est par exemple la plateforme de contenu streaming très haute qualité de Sony qui est réservée à leurs téléviseurs les plus haut de gamme, les Bravia, les Bravia les plus haut de gamme, les derniers. Et c'est du contenu streaming de super haute qualité. C'est-à-dire qu'on a... des débits qui vont jusqu'à 100 mégabits par seconde, c'est-à-dire 3 à 4 fois plus que ce qu'on peut avoir normalement en 4K sur les services comme Netflix. Le truc, c'est que le service sera payant et qu'il sera disponible que sur ces télévisions-là. Je sais que ça peut faire rire. Moi, je trouve que ce n'est pas une si mauvaise idée. Ça s'appelle Bravia Core, le service. Je trouve que ce n'est pas une si mauvaise idée parce que ça donne du contenu pour profiter de sa télévision super méga haut de gamme. Je trouve ça pas mal. Bon, ensuite...
voilà, tout dépendra du prix aussi.
Alors, ouais, et de l'offre des films qui seront disponibles dessus.
J'imagine qu'il va y avoir les films Sony.
Bien sûr.
C'est logique. Mmh. Mais, ouais. Bah, pourquoi pas. Après, ça donne, oui, quoi, ça donne un argument de vente... Et puis, ça permet de justifier un peu son achat, j'imagine.
C'est ça. C'est-à-dire que pour avoir du contenu de vraiment bonne qualité sur un téléviseur super cher qu'on vient d'acheter, je pense qu'on a du mal à trouver. Il faut avoir soit des Blu-ray UHD vraiment de bonne qualité. C'est pas facile de les trouver. Il n'y a pas tous les films. Et il faut qu'on ait un lecteur de Blu-ray. Bon, ça encore, ça peut se procurer, surtout si on a une grosse télé. Mais je trouve que c'est pas mal qu'on ait un service de streaming de vraiment haute qualité. Ensuite, il y a quelques mois inclus quand on achète la télévision, et après, il faut payer. J'ai pas vérifié le prix, j'imagine que ça sera une quinzaine, une vingtaine d'euros, parce que c'est au prix fort, mais bon, voilà.
J'ai du mal à voir comment Sony va développer ça, pour être honnête, parce que le nombre d'utilisateurs qui aura à la fois un téléviseur compatible et la connexion Internet qui permet de profiter de ce service... va pas être énorme. Et donc, du coup, comment tu priorises dans ta roadmap produit de développer un tel service si tu as 3 utilisateurs je ne sais pas.
C'est vraiment un développement à la japonaise. C'est quelqu'un qui a une idée et puis ça passe toutes les étapes et tu dis ouais, ok, parce que personne ne veut dire non. Parce que à mon avis, ce service va exister 4 ans et il va être fermé. Hein. C'est clairement un truc qui... Mais encore que, peut-être que c'est un argument de vente pour les télévisions qui, en télévision haut de gamme, j'imagine qu'elles ont un petit peu plus de marge que sur les télévisions bas de gamme. Donc, bon, on verra.
Mais ça ne doit pas te leur coûter très cher à faire, de toute façon.
Le service, oui, ils ont déjà les films de bonne qualité. Il faut quand même les serveurs près de chez toi pour qu'ils puissent délivrer les 100 mégabits seconde ou les 80 mégabits seconde. Mais ça, il y a des CDN qui gèrent ça, des Content Delivery Network qui gèrent ça. Bon, on verra.
Ça a intérêt à vraiment bien fonctionner, hein, parce que
ah oui, là.
C'est quand même un peu casse-gueule aussi. À ce prix-là, tu pardonnes moins aussi.
C'est sûr, c'est sûr. Il y avait aussi des masques intelligents, on met des grosses guillemets au CES, des masques contre les différentes maladies, que ce soit des virus ou des bactéries. Je sais pas, enfin, c'est des masques qui se nettoient dans des boîtes à rayons ultraviolets ou des trucs, des masques connectés, ce genre de choses. J'arrive pas à décider si c'est de l'opportunisme ridicule ou une vraie utilité. Je sais pas, parce qu'on risque de vivre encore assez longtemps avec les masques. D'une part, cette pandémie n'est pas terminée, et d'autre part, il risque d'y en avoir d'autres à un moment. Et puis surtout, c'est pas plus mal d'avoir un masque quand on est malade pour protéger les autres, comme on le fait en Asie depuis longtemps. Mais je sais pas si on a besoin de masques connectés ou de masques... Enfin, je sais pas si c'est un gadget.
Tu veux pas des lumières qui changent et que tu peux programmer sur ton masque, Patrick ?
Comme
je
tout bon gamer. Je sais pas. Tu vois, je me dis ben non, mais en même temps, je me dis, il faudrait peut-être que j'achète un masque qui soit mon masque et que j'utiliserai un petit peu tout le temps. Et peut-être que si c'est le cas, je voudrais un de ces masques high-tech, je sais pas. Jérôme, t'as un avis sur la gadgetification des masques ?
Non, pas vraiment. On attend voir à l'usage, peut-être. Ouais. Ça sera intéressant, je sais pas. Mais peut-être plus en Asie, là je vois il y a LG qui fait ça, donc voilà, eux en Corée, ça peut-être un marché pour ça en Corée où ils portent des masques plus qu'en France.
Ouais.
Mais ouais.
Ouais. En Chine et en Corée, ouais. Je pense qu'en effet, ce que ça montre en tout cas, c'est que les masques vont pas partir demain, quoi. Que ça va devenir une certaine norme, on va s'habituer et que peut-être cette année, il y a des choses très très gadgets. Peut-être que l'année prochaine, on aura un peu plus mûri sur les usages intéressants des masques. Je sais pas.
C'est possible. Bah, Gwil dans la chatroom plaisante en disant « J'attends les masques avec écouteurs Bluetooth True Wireless intégrés. Bah, » Le Mask Phone qui a été présenté justement fait exactement ça. Donc voilà. En même temps, quand on a des AirPods ou des casques sans fil de ce type-là, ça fait très très bien le boulot aussi. Hein. Donc je ne sais pas si on a besoin de ces masques à 50, voire ils coûtent quelques centaines d'euros hein, parfois. Donc bon, et parfois plus. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est le Digital Key Plus de BMW, qui est un nouveau système de clés numériques qui fonctionne avec les iPhones et avec justement ce nouveau réseau ultra-wideband. Et en fait, ça me donne plus l'occasion de poser une question qui est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des clés sans contact ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Moi, je n'utilise pas beaucoup les voitures, mais... en même temps, on a les clés sans contact. Il faut appuyer sur un bouton de la clé pour ouvrir la voiture. C'est le cas depuis longtemps. Mais là, c'est juste qu'on s'approche et ça se déverrouille. J'aurais tendance à dire que c'est un problème de sécurité. Mais en même temps, depuis que je me sers beaucoup de ma carte de crédit sans contact, enfin ma carte bancaire sans contact, et j'imaginais que ça allait être un truc ridicule et inutile, et au final, je trouve ça très, très pratique. Je ne porte plus de jugement hâtif sur ces choses-là. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin de clés de voiture dans le téléphone ? Ça me paraît être...
Franchement, tu peux te poser aussi la question, est-ce que ça arrive souvent que les gens oublient leurs clés ? A priori, oui.
Ouais.
Oublient ou ne savent pas où elles sont.
Mais si tu perds ton téléphone, t'as tout perdu.
A priori, le téléphone aujourd'hui devient à une place dans nos habitudes et dans notre jean privilégiée.
Encore plus que la
clé. Par rapport à des clés de voiture ou... Ouais.
Si t'as plus de batterie, tu fais comment ? Ça marche sans la batterie,
mais... Je pense pas, je sais pas, mais...
C'est une bonne question.
Tu peux pas.
Est-ce que ça arrive souvent? Ouais, non, mais je pense que c'est une bonne question. Est-ce que ça arrive souvent que tu te retrouves sans batterie de téléphone aujourd'hui?
C'est quand même
maintenant
très
qu'on
rare.
Est tous confinés, j'ai envie de te dire non. Mais...
de toute façon, on ne prend pas notre voiture. Enfin, si, on ne prend pas
exactement.
Les transports en commun. Donc, peut-être qu'on a besoin de voiture. Mais bon, bref, donc voilà, ça continue. Et puis, en marge du CES, il y a eu quelques annonces qui m'ont intéressé, notamment une analyse qui disait que le CES ne présentait pas énormément d'IoT. D'appareils portables, de la maison, de smart home, ce genre de choses, et que c'était vraiment une année de pause par rapport aux années précédentes. Pour les gens qui aiment ce genre d'appareils, c'est peut-être une année de réflexion pour les constructeurs et de reculer pour mieux sauter, mais c'est clair que cette année, il y avait moins de choses dans cette catégorie de gadgets que les années précédentes. Et puis également, l'annonce du départ de Bob Swan, le président d'Intel. Alors, vous le savez, on parlait des problèmes d'Intel depuis bien longtemps. D'ailleurs, il semblerait qu'ils soient en train de réfléchir à la vente d'une de leurs usines. Ça fait un moment qu'on parle des difficultés d'Intel dans le domaine de la fabrication de processeurs. Eh ben Bob Swan va laisser sa place à, que je dise pas de bêtises, je regarde mes notes, c'est Pat Gelsinger qui était le président de VMware. Donc, bon, c'est un changement qui était sans doute nécessaire.
Qui est un ancien Intel, en fait.
Pardon ?
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est un ancien Intel, en fait. Il a passé 30 ans chez Intel.
Ça,
et en fait, ce qui est intéressant dans ce changement, c'est que Bob Swan, c'est un financier, c'est l'ancien directeur financier. Le nouveau PDG, c'est un ingénieur. Donc, on a un changement de stratégie ou moins de philosophie à la tête de l'entreprise où on est voilà, sur une logique plus industrielle, plus d'ingénieur, plus que sur une logique financière. Donc, ça peut être intéressant parce que, comme tu l'as dit, Intel, ils sont dans une position un peu compliquée. Hein. Ils sont dépassés par tous les côtés. Et donc, bon, on va voir s'ils vont continuer à fabriquer eux-mêmes leurs puces. Ça, c'est le débat du jour. On va voir. Mais en tout cas, je pense que ça ne peut pas faire de mal.
Oui. Bah, disons qu'ils sont dans une situation tellement compliquée, effectivement, comme on en parle depuis des mois maintenant. Dans la chatroom, on nous dit le M1, ça fait mal. C'est clairement pas une réaction au processeur M1 d'Apple, même si ça a pu être accéléré, parce que clairement, les choix technologiques n'ont pas été les bons chez Intel ces dernières années. Et Kassim fait une comparaison intéressante. C'est un petit peu comparable à la transition chez Microsoft de Ballmer à Nadella. C'est pas faux. Il y a peut-être un petit peu de ça dans cette décision également. Bon, bah écoutez, voilà pour le CES et ce qu'il y avait autour. On va faire une petite pause pour parler de quoi ? De Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon ? Je vous avais une minute pour répondre et je ramasse les copies à la fin. Je vais vous donner un petit indice quand même. C'est le moyen de soutenir l'émission si vous l'appréciez et de soutenir financièrement le rendez-vous tech. Et d'ailleurs, vous avez en ce moment la promotion qui continue encore pas très longtemps. Hein. Attention, elle va bientôt se terminer, la promotion Bonne Résolution. Si vous avez pris la bonne résolution de soutenir le rendez-vous tech et que vous ne l'avez pas encore fait, eh ben, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et profiter de la promotion qui réduit le prix du niveau qui donne accès au Discord privé de manière assez conséquente. Et en plus de ça, vous avez bien sûr tous les bonus habituels, c'est-à-dire le contenu supplémentaire, les time codes pour passer les sujets qui ne vous intéressent pas, les after-shows et la participation aux after-shows dans certains cas. Donc vraiment, si vous voulez soutenir l'émission, si ça fait quelques années que vous écoutez, quelques mois peut-être, et que vous vous dites « Ouais, vraiment, le rendez-vous tech, c'est sympa, ça m'est utile », eh ben, c'est le moment ou jamais. Ne ratez pas la chance parce que elle va bientôt vous filer entre les doigts et vous aurez. Je précise aussi que la promotion, enfin le prix que vous avez pendant la promotion restera après la fin de la promotion, évidemment. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur patreon.com/rdvtech. Et même si c'est une affaire absolument incroyable, vous le savez, la raison essentielle pour laquelle vous voudriez soutenir l'émission, bah, c'est justement de soutenir l'émission et de donner à l'émission les moyens de se faire parce que vous appréciez le travail que ça représente. Et le fait de pouvoir faire ce travail est évidemment simplement une conséquence du soutien que me proposent les auditeurs. L'émission est disponible gratuitement, mais elle est disponible gratuitement parce que certains des auditeurs choisissent de la soutenir financièrement. Donc un grand merci à vous tous. La promo Bonne Résolution est disponible encore. Et quand vous rentrez à la maison et que vous mettez les clés dans le bol, cling, Patrick, et vous vous dites, ah oui, c'est à ce moment que je vais devoir aller voir sur patreon.com/rdvtech, ou alors tout de suite maintenant sur votre téléphone ou même votre ordinateur, ça se fait en 2 minutes. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, vous savez qu'on parle de GPT-3 depuis des mois. Bon, je ne vais pas reparler de GPT-3. La société qui a créé cet algorithme d'intelligence artificielle a également créé un réseau qui s'appelle DALL-E et qui fait un truc tout aussi incroyable, c'est-à-dire qu'ils font pas une simulation, mais ils ont un réseau qui prend une phrase qui décrit quelque chose et qui donne une image qui correspond à cette description. Et ça va très loin. Vous pouvez, par exemple, décrire une chaise qui a la forme d'un avocat et il va vous faire synthétiser une image d'une chaise qui a vraiment la forme d'un avocat. Je vais mettre le lien vers l'article dans la newsletter, donc allez vous abonner sur notrepatrick.com à la newsletter si vous voulez voir ce que ça donne, mais c'est, ou alors allez voir tout simplement sur DALL-E, le truc d'OpenAI, mais c'est incroyable, les autres descriptions qu'il donne, par exemple, il donne une description qui est une illustration d'un radis bébé qui tient un chien en laisse, en tutu. Et ça fait vraiment un dessin de ça. C'est complètement ma boule. Et je dis ma boule, ça donne un petit peu mon âge, mais c'est complètement fou. Il y a plein d'exemples de ce type-là. Je suis à la fois émerveillé, éberlué, et je ne sais pas, c'est je voulais vous en parler, quoi.
Ouais, c'est assez fou. Je viens de découvrir l'article. Je suis assez scotché par les résultats.
C'est dingue, hein. Mais c'est-à-dire que ouais. Tu donnes cette description et il te... Enfin bon, bref.
Et n'empêche que je vois des trucs pour les créatifs quand ils ont des briefs ridicules. Ils utilisent juste cet outil-là. Et franchement, ça fait gagner un temps.
Mais oui, parce qu'il y a genre une vingtaine d'exemples qu'ils ont donnés et chacun est une proposition créative, artistique différente pour chaque description. Jérôme, pardon, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, je disais, il y a quelques années, peut-être il y a 5-6 ans, j'étais allé chez Google à Mountain View pour rencontrer le patron de l'intelligence artificielle, maintenant chez Apple. Et à l'époque, on se félicitait parce qu'on arrivait à décrire une image. Donc, il y avait une image, on arrivait à dire une image de chien qui mange, par exemple. Donc là, on est totalement dans la retournée de la problématique et ça montre les progrès assez fous qu'il y a eu ces dernières années, quoi.
C'est clair. Allez, le dernier exemple qu'il donne, c'est un salon avec deux fauteuils blancs et un tableau du Colisée. Le tableau est monté au-dessus d'une cheminée moderne. Et chaque image générée correspond 100% à la description et pourtant, elles sont toutes différentes. Enfin, c'est fou.
Alors, pas 100% parce que des fois, il n'y a pas la cheminée, hein.
D'accord, c'est vrai. Et la plupart des images correspondent à 100%, certaines correspondent à 80%. Wikipédia a 20 ans. On parle beaucoup des méfaits d'Internet et des problèmes que posent toutes ces créations. Wikipédia, c'est quand même une merveille qui n'est pas sans poser ses propres problèmes, mais qui est un truc qui fonctionne de manière totalement improbable. On est vraiment dans le décentralisé, dans le crowdsourcé, et malgré des problèmes ici ou là, ça fonctionne. C'est une source extrêmement fiable qui ne fait pas d'ailleurs que du de l'encyclopédie, qui fait aussi des choses comme dictionnaire et d'autres choses. Voilà, je voulais juste soulever mon chapeau pour remercier Jimmy Wales et Wikipédia, auxquels d'ailleurs je fais des dons mensuels à Wikipédia. C'est une ressource assez incroyable pour l'humanité, je trouve.
C'est assez impressionnant qu'ils aient passé 20 ans sans jamais mettre de la pub, sans jamais faire payer. Enfin, il y a pas de business model finalement derrière et ça tient. Alors, sur Internet, c'est quand même assez impressionnant.
C'est remarquable, ouais.
Ouais, on est d'accord. Et non seulement
et d'ailleurs, leur campagne de relance pour le soutien, etc., fonctionne très bien. Hein. Enfin, il y a des chouettes... Enfin, les messages, comment ils sont définis, etc., ça fonctionne bien.
Bah, c'est des ressources vraiment uniques. Hein. Il y a quelques organisations comme ça que je soutiens qui sont pures Internet. Il y a l'Internet Archive également, et c'est des choses qui fonctionnent et qui sont nécessaires, mais qui sont difficiles à financer. Donc, je pense que c'est important de le faire. Ouais. On a eu un leak de la version Windows 10X qui devrait arriver sur des appareils un petit peu plus légers comme la Surface Neo. Donc un leak de cette version de Windows entre Chromebook et tablette, on va dire, qui à mon avis va se généraliser sur d'autres appareils également. D'ailleurs, ils l'ont dit même plus qu'à demi-mot. C'est intéressant de voir la manière dont ça fonctionne au final. On est proche d'une expérience Chromebook en fait. Et, sauf que c'est un vrai Windows derrière, enfin, un vrai Windows allégé, essentiellement basé sur les Windows Universal Windows App, je ne sais plus comment ça s'appelle, les applications du store. Je ne sais pas si on peut faire tourner des Windows, des apps qui ne sont pas du store, je ne me souviens plus. Mais c'est intéressant de voir que Microsoft, malgré son amour pour Windows tout court, est quand même en train de préparer des choses avec Windows 10. Ils ont fait tellement d'essais d'une version plus légère de Windows. On est un petit peu entre Windows RT, Windows... Enfin bref, il y en a plein. Et celle-là pourrait tout à fait... Enfin, pourra tourner sur les appareils sous ARM plus facilement qu'une version de Windows complète. Donc, c'est une préparation de l'avenir qui est nécessaire, je pense. Mais ça ressemble, ça a l'air bien foutu, oui. Pardon, Jérôme, vas-y.
Ouais. Non, je dis que c'est intéressant parce qu'ils ont testé plusieurs fois de faire le Chromebook, enfin le Chrome OS killer, ils n'ont jamais réussi. Donc, finalement, parce qu'à mon avis, ils partaient trop de Windows basique pour essayer de faire quelque chose de plus léger. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu le parti pris de partir de zéro, en fait, et plutôt de partir même de ce que faisait Google, de ce que fait Chrome OS pour est-ce que c'est une meilleure stratégie pour voilà. Je pense qu'on n'a peut-être pas les mêmes attentes d'un Windows léger que, voilà, si c'est pour retrouver le même Windows à quelque chose près, c'est peut-être pas intéressant. Si c'est une interface qui est un peu différente, on voit peut-être plus l'intérêt.
Bah, on est vraiment à mi-chemin presque entre un Chromebook et sur certains éléments d'interface à la dernière version de macOS qui elle-même est inspirée d'iOS. Donc on est complètement dans cette mouvance de plus léger et comment dire, j'irai pas jusqu'à dire hérité de l'interface, enfin des évolutions des interfaces mobiles, mais on n'en est pas loin, quoi. Et ça se contrôle 100% à la souris. Alors peut-être qu'on... Enfin oui, on pourra le contrôler au touch, je suis sûr également. Mais c'est vraiment prévu pour la souris également à la base. Donc, bon, on est dans une évolution, quoi. À voir. Les scanners... les scans de QR code, le gouvernement a proposé la chose... le fait de pouvoir scanner des QR codes avec... alors, on n'est pas exactement... certain de savoir comment ça fonctionne. la chatroom qui me dit « Patrick a de toi d'inventer Windows 8 ». Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ils ont essayé tellement de fois de faire quelque chose qui fonctionnerait, dans tous ces cas de figure. Entre Windows 8 et Windows RT, c'était des choses, des trucs hyper ambitieux qui n'ont pas fonctionné. Bref, Les QR codes pour tous anti-Covid, quelle est cette idée saugrenue ? En fait, je vais résumer très rapidement. Le gouvernement est en train d'imaginer un autre moyen pour faire du traçage de contacts, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la géolocalisation de votre appareil, on ferait un check-in à un endroit, dans un lieu, avec un QR code. Et l'avantage que ça a, c'est que la géolocalisation, c'est très bien, mais ce n'est pas hyper précis, surtout quand on parle de lieux spécifiques dans un magasin, dans une administration, ce genre de choses. On est peut-être allé à un étage différent qu'une autre personne qui était au même endroit, ce genre de truc. Donc, ça pourrait être un moyen supplémentaire de scanner, de tracer les gens. Alors, évidemment, il faut que ça soit assorti de toutes les garanties de sécurité qui sont nécessaires et on n'est pas convaincu que l'efficacité sera optimale pour tout un tas de raisons dont on a déjà parlé par le passé, mais disons que ça serait peut-être, si on part dans l'idée que le traçage de contact est important, c'est peut-être une option à étudier qui serait, je dirais, dommage d'écarter sans l'étudier assidûment, quoi. Et
peut-être moins inventif que la géolocalisation. Parce qu'en fait, là, on fait l'acte de se taguer, en fait.
On précise encore dans la chatroom, il n'y a pas de géolocalisation sur tous anti-Covid. Ce que je veux dire, c'est le contact, la géolocalisation, c'est vrai, je ne devrais pas dire géolocalisation. C'est le contact entre les personnes qui passent physiquement à proximité les uns des autres en Bluetooth, avec les réseaux Bluetooth qui se reconnaissent. Donc, tu fais bien de le préciser, Cyril. Mais là, avec le QR code... Le problème, c'est qu'il faut le faire. C'est pas aussi aléatoire peut-être, mais il faut que chacun qui rentre dans l'endroit le fasse. Peut-être que ça veut dire qu'il faut l'avoir fait pour pouvoir avoir accès à l'endroit, mais ça pose d'autres problèmes. Bon,
Est-ce qu'il faut que tu le fasses à chaque étage d'un magasin ?
Ouais.
Ça compte encore une fois sur l'action des gens et pour être honnête, je suis pas très très convaincue. Je comprends pourquoi ils veulent le renforcer, hein. Mais ça veut dire quoi? Les vigiles seront chargés du coup de faire respecter. Alors ils doivent distribuer du gel désinfectant. Ils vont devoir faire respecter le passage du QR code. Enfin bon, c'est bon, quoi. Ça devient un aéroport à chaque entrée, quoi.
Ouais, c'est compliqué, c'est sûr. Mais ce que je dirais, c'est que c'est pas forcément une mauvaise idée d'investiguer la chose. C'est pas acté encore. Oui. Et bien sûr, la CNIL doit s'exprimer, etc. Mais bon. C'est pourquoi pas regarder quoi ce que ça donne.
C'est ce qu'ils font a priori en Corée du Sud, c'est ce qu'on nous dit dans le chat là.
Il y a plusieurs pays qui ont ce genre de processus mis en place effectivement, mais là encore on pourrait en discuter longtemps, mais c'est pas le même type de discipline dans les pays qui utilisent ce genre de choses généralement.
C'est sûr.
Et un petit mot sur Doctolib. Doctolib a été retenu par le gouvernement pour les rendez-vous pour la vaccination, et je sais qu'on a vu des reproches de certains membres de la classe politique. En fait, le truc, c'est qu'il y a peu d'organismes dans le pays qui ont l'infrastructure et l'habitude et l'expertise pour gérer ce genre de choses. Donc, à un moment, en plus, Doctolib est une solution française qui fait exactement ça. Il y a un moment, ça serait quand même dommage de ne pas s'appuyer sur les solutions qu'on a, qui sont déjà mises en place, surtout qu'il faut aller vite. Je ne suis pas convaincu qu'il serait judicieux de développer dans l'urgence une partie des appareils, des sites, des administrations publiques pour faire ça, alors qu'on a déjà une solution qui existe, quoi. Et en plus, ils sont certifiés pour la gestion des données de santé privées chez Doctolib. Donc voilà, il ne faut pas non plus pousser la paranoïa jusqu'à un extrême qui serait dommageable, je crois.
Oui, c'était assez étonnant le bruit qu'il y a eu autour de ça, sachant que Doctolib est l'une des trois entreprises qui a été sélectionnée, hein, puisqu'il y a également Maya et Keldoc. C'est des sociétés qui obéissent quand même à la législation en vigueur, que ce soit à l'échelle européenne, que ce soit au traitement des données de santé. Donc c'est un petit peu étonnant, sachant qu'on est dans un contexte, comme tu l'as dit, où il faut agir vite. Donc,
j'irais
voit un peu les délais de développement de ce type d'infrastructures et de services à l'échelle d'un pays, oui, ça semble un petit peu à contresens de critiquer ça, mais bon.
Ouais. On doit agir vite et bien, et ils le font déjà bien, donc bon. J'ai vu les chiffres, on est déjà à combien ? 400 000, plus de 400 000 vaccinations ? C'est pas si mal, au final. Après un départ un petit peu à cloche-pied, on va dire, ça a l'air d'être pas si mal. Enfin, je trouve que 400 000, si ça fait 400 000 en trois semaines, c'est plutôt, je sais pas, je trouve ça pas trop mal, quoi. C'est sûr que le début n'était pas aussi bon. Mais on n'est pas les derniers pour critiquer le gouvernement, et on l'a fait plus d'une fois dans l'émission. Parfois, il faut regarder les choses telles qu'elles sont aussi. Bon, est-ce que tu dois filer, Marion, ou est-ce que tu as encore quelques minutes à nous consacrer ?
J'ai 4 minutes.
4 minutes ? Ouh là là ! Ok, alors, toujours dans le cadre du Covid, il semblerait que certains appareils comme l'Apple Watch ou le Fitbit puissent mesurer la fréquence cardiaque, je ne sais plus comment on dit ça en français, les changements dans les rythmes cardiaques, voilà, c'est pas la fréquence cardiaque, mais le rythme cardiaque, et du coup, détecter une infection comme celle du Covid-19 jusqu'à une semaine avant l'apparition des symptômes. C'est une étude d'une université, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas dire si elle est américaine ou anglaise, qui montre que ça pourrait effectivement servir comme indicateur pour dire, attendez, là, il y a un truc qui... pardon, qui est bizarre, peut-être qu'il faudrait vous faire tester. Et du coup, ça pourrait être implémenté peut-être à terme, mais à voir. C'est juste une étude à laquelle n'ont pas vraiment participé ni Fitbit, ni Apple, au-delà du fait de fournir les appareils. Mais je trouve ça assez intéressant. C'est encore un truc qui pourrait donner quelque chose, un moyen supplémentaire de gérer ces maladies et cette épidémie, quoi.
Ouais, c'est intéressant, ouais.
Pas dit que ça
après, il faut voir. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut que ça, faut faire des études poussées sur ça, donc ça peut prendre du temps avant que ça marche, en fait, avant que ce soit prouvé.
Ouais, bien sûr. Là, c'est une étude qui est préliminaire.
Ce qui est étonnant, c'est est-ce que les autres maladies ne déclenchent pas un changement de rythme cardiaque non plus et est-ce que ça peut pas donner des faux positifs pour le coronavirus et par rapport au reste des maladies, quoi.
Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est un indicateur qui pourrait pousser les gens à se faire tester alors qu'ils n'avaient pas forcément de raison de le faire. Et ça ne, enfin, on ne sait rien de très précis de l'étude, mais ça serait un indicateur et la confirmation serait après le test. Ce n'est pas ça qui est une confirmation du tout, quoi. Allez, quelques rumeurs rapides pour du côté de chez Apple. Il y aurait des MacBook Pro qui arriveraient en 14 et 16 pouces qui ramèneraient le MagSafe et enlèveraient la Touch Bar. Et ça serait cette année. Et en plus de ça, ils auraient un nouveau design et plus de ports d'interface. Alors, on ne sait pas si c'est plus de ports USB-C ou d'autres types de ports. Mais en gros, c'est un petit peu Apple. Si ça se confirme, c'est un petit peu Apple qui dit « Bon, tous les trucs qu'on a fait ces dernières années, on va revenir en arrière et on va faire un MacBook des années... Allez, début des années... Première moitié des années 2010. » Mais en version plus moderne. Ça serait intéressant comme move.
Ah non, mais là, j'en peux plus, moi, de ces ports, enfin, pas des ports, mais des MagSafe, pas MagSafe, USB-C. Je me trimballe avec 36 000 chargeurs, c'est pas possible. Je choisis de saison 1 et garde-le, quoi. Et par contre, ravi de se débarrasser de la Touch Bar, hein. Merci.
Oui, moi, j'avoue qu'au pire, elle m'a pas vraiment servi, elle m'a pas vraiment gêné non plus, mais c'est vrai qu'elle sert pas énormément. À voir s'ils vont s'en débarrasser. Ils seraient en train également de discuter d'un service d'abonnement au podcast, eux aussi. À voir si ça serait genre abonnement avec des podcasts exclusifs à Apple Podcasts, ou alors si ça serait un service où vous pouvez vous abonner et tous les podcasts que vous écoutez reçoivent un petit peu de sous. Moi, j'aimerais bien cette option, hein, je serais pas contre.
Je crois que c'est la première qui est...
Malheureusement.
Je crois aussi, ouais.
Malheureusement. Et du coup, on se repose la question qu'on s'était posée avec Spotify et avec, je ne sais plus, maintenant Amazon a acheté Wondery, donc ils vont s'y mettre aussi. La question, c'est combien est-ce qu'ils devraient me payer pour que je mette mes émissions en exclusif sur Apple Podcast? Et la réponse, c'est, bah, de toute façon, ils ne vont pas venir me chercher parce que je suis trop petit. Donc voilà, c'est la réponse à cette question. Et enfin, avant que Marion ne nous quitte, ils seraient en train de travailler, ils auraient déjà commencé à travailler sur un iPhone pliable avec un écran pliable. Bon, c'est pas étonnant, c'est forcément une chose sur laquelle ils travaillent. Est-ce que ça veut dire que ça va arriver bientôt? On sait pas, enfin, a priori pas bientôt. Mais surtout, ils ramèneraient également le Touch ID avec un capteur sous l'écran pour 2021. Touch ID, donc capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Moi, je dis oui.
Ah oui, oui, oui.
On est pour. S'il y a tout ensemble, ah oui, ça serait cool. Peut-être que ça serait la nouveauté de l'iPhone 13. Est-ce qu'ils vont sauter l'iPhone 13? Parce que 13, ça porte malheur. C'était le franchement. iPhone 14 direct, changement de nom ou iPhone 13?
On va faire une Windows 10.
C'est, ouais, ben, on va sauter les noms des téléphones. Mais ils l'ont déjà fait, il n'y a pas eu d'iPhone 9, donc il n'y a pas de raison. iPhone 14, voilà.
Oui, c'est vrai.
iPhone 12 super, moi je trouve ça bien comme nom.
Les fans, oh non,
les amateurs de YouTube comprendront.
iPhone super plus.
Ouais, iPhone 12 super plus. Bah oui. Exactement. Parce que si c'est iPhone 12 super, il y a iPhone 12 super max et iPhone 12 super max plus, non?
Et il y a iPhone super mini.
Ah mais oui, iPhone super mini, ça marche aussi. Bon. Je vais te libérer, Marion, parce que tu dois filer. Et puis, on va parler de choses très chiantes avec Jérôme.
Mais... ben, c'est tant bien.
avant de nous quitter, tu nous rappelles où on peut te retrouver?
Oui, bien sûr, vous pouvez même me retrouver sur Twitter au pseudo Aizea Design. Et sinon, le mercredi matin à 8h pour le mug sur la chaîne Nowtech. Voilà.
Super.
Merci encore à tous les deux.
Merci, Marion. Au mois prochain.
Salut.
Alors, je voudrais, Jérôme, qu'on parle quelques minutes des suites de la question de la déplateformisation du président américain. On en a déjà parlé très longuement la semaine dernière, donc on ne va pas refaire toute l'histoire. Mais ce qui s'est passé depuis la semaine dernière est quand même notable. D'une part, il y a eu de plus en plus d'identification des personnes qui ont pris part à l'assaut du Capitole, et des applications de dating comme Tinder ont bloqué les personnes de leur service, ces personnes-là de leur service. Airbnb a été, entre guillemets, contraint d'annuler, de bloquer des réservations à Washington pour l'inauguration du président Biden. C'est parce qu'on vous rappelle qu'au moment où on enregistre, il y a encore l'inauguration demain, et que donc la tension est au plus haut encore aux États-Unis, parce que certains craignent des violences, malgré les appels au calme du coup de toutes les parties, certains craignent encore des violences et des problèmes pendant l'inauguration, et pas que à Washington d'ailleurs. Et puis surtout, il y a l'application Parler qui a d'une part encore fait parler d'elle après son, entre guillemets, bannissement de toutes les plateformes, avec une analyse encore de l'excellent Mike Masnick de TechDirt, que je mettrai aussi dans la newsletter, mais que j'ai trouvé vraiment judicieuse, en fait, qui rejoint un petit peu ce que je disais depuis quelques semaines, qui est que la raison pour laquelle Parler a disparu, vous savez, Parler, c'est le réseau, entre guillemets, liberté de parole totale, qui y sert de refuge, au final, comme toutes ces plateformes, aux extrémismes divers. Et donc, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas juste deux gros géants de la tech qui se sont donné la main et qui ont dit en coordination « on va virer Parler parce qu'on ne les aime pas ». C'est une réaction du marché et d'un ensemble de sociétés qui est naturelle quand ce que fait la société qu'ils ciblent n'est pas accepté par la société, dans ce cas-là, dans le cadre de la société, le pays, enfin la culture en général. Et je trouve que c'est... bon, j'en parlais de cette manière depuis un moment, donc je trouve que c'est tout à fait judicieux. Ceci dit, le réseau en question, Parler, est en train de revenir en ligne en passant par un hébergeur qui s'appelle Epic, qui d'ailleurs a l'habitude d'héberger ce type de services qui sont généralement le refuge des extrémistes, des services comme 4chan ou Gab. Donc ils ont trouvé un hébergeur et ils utilisent un service russe pour la protection de leur trafic. Donc, tout le trafic de parleurs est redirigé vers des serveurs russes, ce qui est, on va dire, assez ironique, étant donné
ironique,
que...
Ironique, ouais.
On parlait la semaine dernière, on disait « Oh, peut-être qu'ils vont trouver un hébergeur en Chine, c'est le seul endroit où ils peuvent aller. » Et bah, peut-être qu'ils vont aller en Russie, et on en rigolait la semaine dernière. Et bah, du coup, bon, c'est pas l'hébergeur qui est en Chine, c'est bien un hébergeur américain qui s'appelle Epic, comme quoi il y a effectivement des alternatives. Mais ils font quand même... ils utilisent un serveur russe, ce qui, encore une fois, est assez ironique, parce que toutes les manipulations, ou pas toutes, mais la majorité des manipulations des élections ont été confirmées par les services secrets américains comme étant originaires de Russie. Et le hack SolarWinds dont on parlait il y a quelques semaines a également été confirmé comme étant originaire de Russie. Donc, bon, bref, quoi qu'il en soit, Parler pourrait revenir en ligne, en tout cas sur le web, et grâce à ces services-là, ce qui montre bien que, bah, voilà, il y a de la concurrence. Si quelqu'un veut le faire, c'est possible. Bon, on pourrait en dire un petit peu plus sur Parler. J'aimerais qu'on mentionne également que Telegram est un petit peu sous le feu des projecteurs en ce moment, parce qu'ils sont en train d'avoir... Telegram, c'est un service de messagerie directe, un petit peu comme Signal, mais en moins ouvert. Donc, on n'a pas autant d'informations sur leur protocole et leur code. Mais ils garantissent, enfin, ils promettent une sécurité et un chiffrement point à point. Donc, impossibilité d'intercepter les messages. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils sont en train de connaître une popularité énorme, et on se rend compte d'un truc qu'on savait déjà, mais encore plus qu'avant, c'est que cette sécurité maximale et ce chiffrement sérieux veut dire qu'on ne peut pas avoir accès aux messages qui sont envoyés par le système. Et donc, toutes les préoccupations qu'on a sur le chiffrement total restent valides au final, et même peut-être prend une couleur différente avec les événements de ces dernières semaines et l'utilisation que vont peut-être commencer à en faire certains de ces services comme Telegram ou Signal. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter encore. Certains députés en France demandent d'étudier les conséquences de la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors, la levée de l'anonymat, il faut le dire vite, hein, c'est quelque chose qui est difficile à implémenter peut-être et dont les conséquences pourraient être trop importantes pour que ça soit même vraiment considéré. Il est important de préciser qu'à ce stade, c'est une étude sur le sujet. Et comme souvent, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut investiguer la chose avant de prendre une décision et pas prendre une décision avec un petit peu une réaction immédiate, épidermique, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc à ce stade, moi je ne suis pas du tout, on va dire, je ne suis pas inquiet ou je ne suis pas préoccupé par cette idée, parce que et vraiment essayer de comprendre ce que ça voudrait dire et ce que ça impliquerait, ça me semble assez important.
Et voilà, il y a un débat.
Vas-y, Jérôme.
C'est un peu compliqué en fait, tous ces débats autour des réseaux sociaux, de... Ben, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Parler et puis sur Twitter. Et c'est des débats qui sont tellement complexes et chacun a son avis en fait. Et moi, je trouve que moi, personnellement, je n'arrive pas à me faire un avis en fait sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, sur l'avantage, les inconvénients. Sur, je trouve que ça nous dépasse un peu en fait. Ça dépasse tout le monde et il y a des implications qui sont énormes au point de vue de la société, au point de vue des relations, que je ne sais pas ce qu'il faudrait faire en fait. J'ai du mal à voir quelles seraient les solutions ou s'il y a des solutions qui existent.
C'est sûr que c'est pas facile du tout d'arriver à une conclusion, et je me méfie toujours beaucoup plus des gens qui savent exactement ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire que de ceux qui disent je suis pas sûr. Donc je suis content de t'avoir dans l'émission, Jérôme. Benedict Evans a fait un article assez intéressant justement sur cette complexité, en disant que alors j'ai pris quelques notes de ce qu'il dit. En gros, les réseaux sociaux sont quelque chose de très différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est ni des plateformes, ni des éditeurs. Et essayer de les classifier dans l'une des deux catégories, c'est aussi intelligent de se dire, que de se dire en, 2000, en 1930, est-ce que la radio est un livre ou un journal ? C'est ni l'un ni l'autre, c'est encore autre chose. Et il dit, il est beaucoup plus facile de dire Twitter est un journal ou faut se débarrasser des nazis que de vraiment travailler à essayer de décider ce qu'on veut que Twitter fasse. Et c'est ce qu'on dit, on disait la semaine dernière, le jour où on aura décidé vraiment ce qu'on veut que Twitter fasse, on pourra leur dire et ils pourront le faire. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment eu de solution. Et donc, simplement dire « il faut qu'ils fassent mieux », bah, ce n'est pas très, très utile, quoi. Donc, fix it, ce n'est pas très intéressant comme...
Mais surtout,
vas-y.
Sur Twitter, tout le monde... Bah, moi, je vois ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, mais tout le monde dit « il faut qu'ils fassent mieux ». Mais cela dépend d'où on se place, en fait, de deux côtés. Il y a les démocrates qui vont dire il faudrait qu'ils modèrent plus, les républicains qui vont dire il faudrait qu'ils démodèrent pas. Donc finalement, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un problème, mais les solutions, elles sont, enfin, il n'y a pas de solution qui pourrait satisfaire tout le monde, quoi.
C'est exactement ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il faudrait que les gouvernements décident de ce qu'on veut vraiment qu'ils fassent. Mais jusqu'à maintenant...
Mais je ne sais même pas si c'est le rôle... Je veux dire, est-ce que si un gouvernement prend une décision, ça va changer le débat ou pas, quoi ? Enfin,
ah bah, disons que le gouvernement étant l'expression de la volonté du peuple, a priori, enfin c'est comme ça que c'est censé marcher, à partir de là, peut-être qu'on fait des erreurs, mais au moins on s'est mis d'accord et puis il n'y a plus de Twitter devrait faire ci, Twitter non, Twitter devrait faire ça. On fait passer ça par le Parlement, on fait un projet de loi, on fait une discussion, on fait des amendements. Puis au final, si on réussit à avoir une décision qui fait consensus, eh ben... on l'applique et puis on voit ce que ça donne. Mais au moins, les choses seraient établies. Ça ne serait pas « non, non, ils n'ont pas le droit de faire ceci, ils s'arrogent la liberté d'expression, ils se... » Non, s'il y a un tel problème, il faut que la société, et quand je dis la société, j'entends par la voix de ses élus et donc de ses membres représentatifs du gouvernement, prenne une décision et qu'on arrête de dire « non, ça, c'est pas bien, non, il faudrait faire comme ça » et qu'on entende 1000 voix discordantes ou 7 milliards de voix discordantes dont chacune a une idée différente. Ça fonctionne pas, quoi. D'ailleurs, dans la chatroom, Guillaume nous fait remarquer que l'anonymat, la fin de l'anonymat n'aiderait pas forcément, puisque comme l'ont signalé certains également à la lecture de cette proposition, sur Facebook, généralement, alors pas tout le monde, mais généralement, on a son propre nom, et pas que sur Facebook. Et ça n'empêche pas que les gens restent assez désagréables, même avec leur propre nom. Donc, il n'est pas garanti que ça aiderait beaucoup. Ceci dit... Si on n'a pas d'anonymat, ça permet quand même de retrouver les personnes plus facilement. Donc ça peut aider. Mais d'un autre côté, excuse-moi, je finis juste sur ça, sur la question de l'anonymat. D'un autre côté, l'anonymat est aussi utile dans certains cas, notamment dans des cas où on va combattre un pouvoir qui est oppressif. Donc voilà, on est pile dans la situation que tu évoquais, où il y a certains avantages et certains inconvénients.
Mais l'anonymat, il est relatif, parce que s'il y a des décisions de justice... Twitter ou Facebook ont l'obligation de donner l'identité du détenteur du compte. Donc, juste que si on n'est plus anonyme, si on n'a pas de pseudo, on est plus facile à être retrouvé, c'est sûr. Mais je veux dire, le problème, c'est que aujourd'hui, si on prend ce qui se passe sur les réseaux sociaux où il y a des menaces de mort, par exemple, des choses comme ça, c'est possible de faire condamner les personnes qui font des menaces de mort. Il y en a de plus en plus. C'est juste que ça prend beaucoup de temps, qu'il y a des démarches à faire, qu'il faut que Twitter ou Facebook soient réactifs également. Donc, et s'ils ne sont pas, il faut passer par la justice. Donc, c'est toujours très compliqué. Très honnêtement, je ne sais pas. Je trouve que c'est un sujet qui est tellement complexe que en débattre des années et des années. Je pense qu'on en débattra des années et des années.
C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est nécessaire. Moi, je pense qu'il faut en débattre pendant très longtemps et qu'on écoute toutes les opinions. Et tu mentionnais également le fait qu'on peut retrouver les gens quand on le veut et quand il y a une décision de justice, parce que Twitter doit donner les informations, Twitter et Facebook doivent donner les informations, parce que sur Facebook, même si en théorie on doit utiliser son vrai nom, bon, il y a des gens qui ne le font pas, c'est pas une loi non plus, mais si on peut retrouver les gens plus facilement, si on doit utiliser son vrai nom sur les réseaux sociaux, ça veut dire que n'importe qui peut retrouver plus facilement les utilisateurs des réseaux sociaux. Et on sait que les réseaux sociaux comme Twitter sont des vecteurs de harcèlement assez dangereux même. Donc voilà, ça c'est aussi une chose à prendre en compte. Bon, pour être parfaitement honnête, moi je pense que l'obligation d'utiliser son vrai nom ne se concrétisera pas. À la fin de l'anonymat, c'est une solution à certains problèmes peut-être, ou on pense que ça pourrait être une solution à certains problèmes, mais... les inconvénients ou les problèmes nouveaux que ça poserait sont trop nombreux. Donc voilà pour... alors j'avais encore des dizaines de liens sur les questions qui se sont posées sur la déplatformisation. On va en discuter, ça va être un des sujets pour les années à venir, comme le disait Jérôme. Et puis surtout, on a demain l'investiture du président américain. Je pense qu'on aura une des portes qui va se refermer sur ces controverses une fois que l'investiture aura eu lieu, en espérant qu'elle se passe sans incident. Et après, ça deviendra le travail de longue haleine dont on parlait il y a quelques minutes. Eh bien, merci Jérôme d'avoir participé à l'émission. C'était fort sympathique de t'avoir une nouvelle fois. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet pour les gens qui en veulent plus ?
Alors, sur cafetech.fr, donc c'est ma newsletter que j'envoie tous les matins pour décrypter l'actualité tech. Et je suis sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est Jérôme Marin SF, comme San Francisco, parce que j'ai passé 7 ans à San Francisco, voilà.
L'héritage de ton histoire. Merci beaucoup Jérôme. Donc une fois que vous vous serez abonné à la newsletter de Jérôme, vous pourrez aller sur notrepatrick.com pour vous abonner à la newsletter de Patrick, dans laquelle je distille les articles que j'ai trouvés les plus intéressants dans ma veille hebdomadaire. Donc elle est envoyée généralement le jeudi. Vous pouvez encore vous y abonner. Je mettrai des liens vers ces articles que j'évoquais qui ont des conclusions intéressantes sur la déplatformisation, ou en tout cas des réflexions intéressantes. Et puis bien sûr, vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Vous savez où c'est. Vous savez qu'il y a la promotion Bonne Résolution. Si c'est la bonne résolution que vous vous êtes dit... écoutez, franchement, il y a plein de bonnes résolutions qui sont difficiles à tenir, genre je vais perdre du poids, je vais être une meilleure personne dans la vie, je vais sauver la planète. Tout ça, c'est difficile. Une bonne résolution que vous pouvez prendre qui est faisable, c'est de soutenir du contenu que vous appréciez comme le Rendez-vous Tech. C'est beaucoup plus simple, vous allez sur patreon.com/rdvtech. Donc voilà, moi je dis, c'est une bonne résolution faisable, facile, que vous pouvez faire dès aujourd'hui sur votre téléphone mobile ou quand vous rentrez chez vous, quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, bonne résolution, Patrick. Alors qu'en plus, une promo super sympathique. Donc, merci à vous tous de soutenir l'émission. Merci à ceux qui vont le faire en écoutant cet épisode et qui vont aller sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et puis... on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao, ciao.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.